France Inter.
C'est la Brigida, soyez bienvenue avec Emma, Jean, Camille, Lava, Bruno Péchy, Paul Delas,
bonjour.
Tanguy, Monsieur Daniel Morin et notre invité Michel Bouchard.
Bravo. France Inter. Bande originale. Leïla Kaddour et Nagui.
Leïla, que vous retrouverez en pleine forme demain. Michel, ravi de vous accueillir.
Merci, c'est gentil.
Comment ça va?
ça va, comme un matin.
Toute la famille, oui, comme un lundi matin, c'est un jour off. On vous fait quand même travailler malgré le repos le repos du théâtre. À propos de repos et du théâtre, je vais commencer par une triste nouvelle. Bruno Salomon nous a malheureusement quittés. Je voulais juste dire toute la tendresse, l'affection que j'avais pour ce monsieur qui habituellement nous fait rire. Là, ça nous fait un tout petit peu moins rire, même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais on n'oubliera jamais ces éclats de rire. Et puis l'admiration que l'on peut avoir pour le combat et la force qu'il a eue en luttant contre cette saloperie de cancer. On pense à tous ceux qui l'entourent, à sa famille évidemment, et puis pour toujours à Bruno Salomon, un grand monsieur du théâtre. Le théâtre. Théâtre, c'est toujours délicat d'enchaîner, d'autant plus, d'autant plus que l'histoire de cette pièce parle de l'héritage, mais de l'héritage sonnant et trébuchant, justement. Alors, est-ce que vous avez déjà, un petit tour de table, déjà hérité, vous, d'un membre de la famille, ou pensé, quel que soit le montant, quel que soit, que ce soit, je sais pas, un carnet à spirale, que ce soit des bibliothèques, un vide-grenier d'une tante, d'une grand-mère, ou avez-vous déjà pensé vous-même à vos propres objets, malgré votre jeunesse autour de cette table, évidemment?
Ah oui, tellement.
À vous dire. Ah merde, tu entends maintenant?
C'est de la connerie, j'entends tout.
À vous dire ce que vous allez faire de vos affaires. Bruno Péchy.
Oui, moi, il y a une bague de mon papa qui a encore en vie, Dieu merci, mais il a une bague avec ses initiales.
Une chevalière, donc.
Une chevalière, exactement.
Le mot n'est pas arrivé en Suisse.
Et qui... ouais, bah, c'est ça.
C'est comme ça qu'on dit.
Oui.
Mais note-le.
Oui, je vais le noter.
Il est agaçant.
Tu vas aller avec les initiales, on a les mêmes initiales. Et du coup, il me l'a passé.
Tu voudrais lui voler.
Trop content. Non, il me l'a donné. Il me l'a donné maintenant. Et sauf qu'elle est un peu trop grande pour moi. Donc
tu vas grossir.
Je suis content. Voilà, je vais grossir. Je
pense que ça se. Je vais pas dire.
Oui, ça se règle.
Je crois que ça se règle. Hein, apparemment, il a déjà. Avec toutes les bagues que j'ai volées, je peux dire ça se règle.
Je peux dire.
Il y a des chevalières qu'on peut régler. Donc merci.
Ouais, on peut régler les bagues. Ouais. Mais ça serait. Et tu attends. Pardon. C'est tellement sentimental que tu ne veux pas la porter.
Je pense que je la porterai, mais à des rares occasions.
Mais pas devant lui, en tout cas. Pas tout de suite.
Ah si, peut-être. Non, ça va, j'ai pas non plus un truc de je peux pas la porter devant lui ou pas.
Ouais, pas de superstition.
Non.
Et tu sais déjà ce que tu ferais de cette bague en cas d'héritage?
C'est-à-dire... Non, je l'ai eu.
Oui, mais toi, après, une fois que tu partiras, tu
voudrais... je sais pas si... Mais déjà, faudrait que j'ai des enfants, faudrait que j'ai un
tu fils ou
une fille qui... ça, je sais. Il n'y a pas besoin de me dire, avec une chevalière, c'est ça quoi.
Il faut l'enlever.
Oui. Et après... Oh, waouh.
Sinon...
Après, il faut les mêmes initiales, donc ça serait compliqué.
Ok. Emma?
Alors moi, plein de gens sont morts autour, mais j'ai jamais rien hérité de rien. Je sais pas.
Je rappelle à la police que tu niais pour rien.
Oui, voilà. Sûrement une question de feeling. Par contre, moi, je suis un peu dramatique. Je tiens des journaux. J'écris beaucoup, beaucoup de journaux. Et je les écris en me disant qu'un jour, on les sortira, on les publiera. Et vraiment, du coup,
l'inverse, il n'y a pas des choses que tu écris en disant pourvu que personne ne lise?
Non, c'est ça qui est un peu vicieux. Okay. C'est que j'écris en me disant aujourd'hui, j'ai vraiment été quelqu'un de génial. Enfin, en disant quelqu'un lira ça un jour et dira putain, elle était vraiment géniale. Voilà.
Tu veux laisser une trace.
Absolument.
C'est bien. Camille, la femme.
Moi, j'ai hérité de l'alliance de ma grand-mère arménienne, Angèle. Que je porte. J'ai jamais connu ma grand-mère, mais je porte son alliance depuis
très bien.
Plusieurs.
Oldelaf.
Moi, j'avais hérité d'un petit livre de rimes de mon grand-père maternel, voilà, et qui m'a pas mal servi au début pour écrire les chansons.
Joli. Ah bon, on le félicite pas.
Eh bien,
tous les jeux de mots, toutes les vannes, c'était
exactement. Des rimes en oujna, j'en ai trouvé plusieurs.
Ah, c'est pointu.
Daniel Morin.
Non, moi, comme tu disais, ça ressemble un peu à des vides-greniers, c'est-à-dire des affaires qui étaient dans l'appartement du défunt. J'étais l'héritier.
Oui, mais il y a des trucs qui deviennent collector, c'est-à-dire que
3 mois, non. Mais,
Pas chez moi. Tu vois, par exemple, moi, je regrette de m'être débarrassé d'un manche-disque. Je ne sais même pas si vous savez, gamins, ce que c'était que les manches-disques.
Je viens d'inventer un mot pour
okay. Donc, c'était une espèce de boîte dans laquelle il y avait juste une petite fente.
C'est
dans
très bien nommé, c'est vraiment.
Tu faisais rentrer les 45 tours, comme ça, et il y avait une enceinte intégrée. Tu pouvais te balader et écouter de la musique. Okay. C'était super. On n'était pas obligé de rester assis dans le salon pour écouter de la musique. Et donc, on avait un manche-disque qui était orange parce que années 70 et machin. Évidemment, le premier truc que j'ai fait quand il y a eu les Walkman, les compagnies, machin, c'est de dire je me débarrasse de mon manche-disque. Mais maintenant, ça vaut une fortune, ce genre de truc. Et je l'ai jeté. Donc, les vide-greniers, il peut y avoir des choses, bah, des
écoute,
trésors.
Non, hein. Où j'étais débile, j'ai peut-être jeté des trucs qui valent des millions maintenant.
Et vu ton grand âge, tu as déjà pensé à ce que tu ferais de tout ce
que
tu fais.
Mais c'est réglé, ma succession.
Ah!
Quelque chose pour toi, Dingui.
C'est parce que c'est le livre de rimes.
Le rime.
Les meilleures blagues.
Les meilleures rimes en Oujna.
Non, moi j'ai.
Et toi, oui, alors, par le manche.
J'ai les deux alliances de mon papa et ma maman.
D'accord.
Alors, on est deux frères, mais très.
Mais t'as décidé que c'était
très, très élégamment, c'est mon frère qui m'a dit qu'est-ce que tu veux en faire. J'ai dit écoute, moi je veux.
Les garder.
C'est important en fait, et c'est là aussi tout ce qui se passe dans la pièce, on va en parler. D'être d'accord quand on est une fratrie, quand on est plusieurs, d'être d'accord avec qui a quoi, qui fait quoi pour pas se disputer. Là, je lui dis ouais, j'aimerais bien avoir la bague de papa et maman, et il me l'a gentiment laissé faire, et il m'a. Mon papa avait deux montres, ce qui était beaucoup plus simple. Pour l'héritage, puisque on est deux frères, donc j'ai les deux montres.
Deux poignées de montres.
Michel Oujda, est-ce que vous avez déjà hérité de quelque chose dans votre vie?
Oui, de.
Non, mais sans rentrer dans les détails, mais. Non, mais je ne veux pas vous gêner.
Mais non, c'est Nagui, hein, c'est question et réponse.
Oui, pas, je ne veux pas vous gêner.
J'ai hérité de choses tout à fait sans aucune valeur matérielle, mais bizarrement, j'y tiens.
Ouais, mais évidemment,
deux bibliothèques en bois que j'aimais beaucoup.
Ah, le meuble bibliothèque ou les livres qui sont dedans?
Non, le bâtiment. Non,
une partie des livres.
La BNF. La BNF est à.
Wow, merci.
Non, l'immeuble. L'immeuble et quelques livres. J'adore les livres.
Ça s'appelle Boujna nous forme, BNF. Hein, c'est comme ça.
Vous allez très très mal.
Non, mais c'est
vrai qu'on va pas bien, Michel.
Avez-vous déjà pensé, vous êtes encore jeune, mais avez-vous déjà pensé à ce que vous feriez de vos.
Oui, pratiquement, biens. Pratiquement, oui.
Faut anticiper. Oui. En fait, la leçon à retenir, c'est ce qui se passe dans la pièce, il faut anticiper.
Oui, absolument.
Faut anticiper.
C'est le mieux, mais bon, c'est pas. J'imagine pas ce que j'ai vu dans ma vie autour de moi par rapport à la pièce, parce que depuis que je joue cette pièce, les gens me parlent de l'héritage, mais des gens qui s'adoraient, qui étaient inséparables dans la même famille,
et malheureusement
qui étaient genre deux frères à deux ans d'écart, presque jumeaux, quoi.
Très proches, très complices, mais l'héritage vient tout foutre en l'air.
Ouais. Mon dieu,
l'argent change
beaucoup.
C'est
fou. Moi, dans ces cas-là, je suis très très content parce que quand mon père est parti au paradis, il avait que des dettes. Donc, on a refusé l'héritage.
Mais le truc, c'est qu'on hérite des dettes aussi.
Oui, bien sûr. Mais
tu peux refuser
l'héritage. Oui. Si tu refuses l'héritage, tu payes pas. Ah bah non, pas déconner non plus.
Non, tu peux refuser.
Oui, mais enfin, les personnes à qui on doit quelque chose se retrouvent sur le carreau, alors.
Oui.
Ok.
Ben oui, parce que c'est toi qui dois. C'est pas ton fils, ni ta fille.
Ouais, pour le coup, il doit y avoir un fond de.
Ouais, ce que j'allais dire.
Il y a un truc quand même fascinant sur l'héritage. Ce qui est quand même incroyable. Que je trouve, moi. Enfin, moi, j'ai hérité de rien, d'accord. J'ai rien eu quand j'ai démarré ma vie. Je me suis construit absolument tout seul.
Sauf les deux bibliothèques.
Voilà, ouais. Ce que j'ai acquis avec mon travail et ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est à moi. C'est pas à mes enfants. Théoriquement, en théorie, mes enfants n'ont aucun droit sur mes biens, puisque je l'ai construit tout seul. J'ai pas eu de mon père ou de mon grand-père.
Non, mais sur les droits d'auteur, par exemple, de vos spectacles,
il va
bien falloir que quelqu'un gère, entre guillemets, ses droits d'auteur.
Oui, absolument.
Les magnifiques vont continuer de repasser à la télé, il va y avoir des droits d'auteur, donc c'est normal aussi
que
ça revienne à vos enfants.
Oui,
non.
Ben,
vous voulez que ça aille à quoi?
Moi je veux que ça aille à mes enfants, c'est pas le problème. J'adore mes enfants, je veux qu'ils aient tous, même déjà aujourd'hui.
Michel, on ne comprend rien quand vous parlez. On ne comprend rien du tout.
Non, je parle en théorie.
Bah, en théorie, si vous avez un appartement et que vous disparaissez, déjà en théorie, ils vont devoir payer les impôts.
Non,
sur
c'est
le...
pas ça, c'est que les batailles d'héritage, fondamentalement, les enfants, à la limite, ils pourraient dire, mais enfin, au fond, ça nous appartient pas.
Ouais, c'est
ça.
Pourquoi se disputer?
Voilà, exactement.
Okay. Alors, et je pense que la dispute ne vient pas. La dispute ne vient pas de ça nous appartient pas. Pourquoi se disputer? La dispute vient de pourquoi toi tu aurais ça et moi pas.
Exactement.
C'est plus
exactement. Ouais. Et c'est triste.
C'est moche. Bon,
vous savez, c'est la célèbre histoire de deux amis qui sont au restaurant avec une. On prend des risques. On va raconter des blagues à Michel Boujna dans la vie.
Non, mais faut tenter.
Et donc on apporte n'importe quoi. Une assiette avec deux soles meunières, une petite et une grande.
Oui.
Sole meunière. Et puis ils sont là à table. Bah vas-y, sers-toi. Bah non, je t'en prie. Et puis il y en a un qui y va et qui prend la grosse sole meunière.
Exactement.
Et l'autre en face lui dit bah ça va, ouais. Pourquoi tu prends la grosse? Il fait bah je sais pas, j'ai commencé le premier, je prends la grosse. Ouais. T'aurais fait quoi, toi, si t'avais commencé le premier? Il dit, mais moi, par politesse, oui, si j'avais commencé le premier, j'aurais pris la petite. Mais bah pourquoi tu râles, tu l'as?
C'est marrant pas parce qu'on peut imaginer aussi
moi,
que
je l'aimais, hein.
quand les deux poissons arrivent. Il y en a un des deux qui dit « Prends la grosse. J'en veux pas. » Je veux dire, ça, c'est, ça s'appelle l'élégance. Mmh. Ou la
générosité. Je vois pas de quoi vous parlez.
Ouais. C'est pas ici qu'il fallait venir, Michel. C'est pas ici qu'il fallait venir. Hein.
Toute la famille que j'aime, c'est au Théâtre des Variétés, avec Michel Boujna qui est notre invité jusqu'à midi et demi. On en parle, mais d'abord, voici Oldela. Ah, il n'est pas prêt.
Attendez,
ses enfants ont déjà hérité de la guitare, donc il n'y a plus de...
D'accord, c'est dommage. Hein.
Ça va?
Non, je suis en train de m'attacher avec mon casque, voilà.
Bah enfin, tu sais que t'étais assis depuis à peu près une demi-heure déjà.
Pas du tout, j'ai eu une retouche de dernière seconde.
Une retouche.
Oh, le tailleur. Le tailleur de la BO.
Est-ce que vous êtes prêts?
Attends, bouge pas. Bah, présente-nous quand même.
Ah, il y avait avec moi, c'est Jamel de Blues. Voilà, ouais. C'est mon guitariste. Voilà, vous êtes prêts?
Nagui, t'es sûr, tu veux qu'on continue là?
Je suis pas prêt.
Non, mais on a fini.
Alors, c'est Yann de là.
Oui. Je suis fan de Michel Boujna. J'aime tout de vous au théâtre ou au cinéma. À part le film où vous dites que trop manger c'est pas bien. C'est vrai que j'ai eu du mal avec trois hommes et un couple fin. Je suis fan de Michel Boujna. Le meilleur humoriste Dunkerque à Djerba. Si on vendait aux enchères toutes vos plaisanteries, je crois bien qu'on se ferait de la thune easy. Et vous êtes là pour toute la famille que
j'aime.
Une pièce où l'héritage est au cœur du problème. Hériter d'un fan de Johnny, c'est pas la fête. Et plus la pièce avance et moins ils savent où se mettre. Ouais, je suis fan de vous et je dois vous avouer que je cherche quelqu'un pile comme vous pour m'adopter. Je serais tellement bien comme membre de votre famille. Michel Boujna, enfin le Bouge, c'est plutôt ça qu'on dit.
Oui. Ok. Toute la famille que j'aime. Elle vient de là, elle vient du Bouge. Mes mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le Bouge. J'y vois la joie, j'y vois la peine. Et tout ça, ça devient le Bouge. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps, loin de Rochechouart, des pieds noirs lui donnèrent le jour pour jouer les peines et les espoirs, pour jouer Molière et puis l'humour. Le public viendra tant que jouera le bout. Tu pleures, il t'enchante quand même. C'est bien la preuve qu'il faut garder. Toute la famille que j'aime, elle vient de là, elle vient du Bouge. Mes mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le beau. Je suis fan, merci Michel, merci Bourgeois aussi. Vous nous donnez vraiment l'envie d'avoir envie. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec
la bande originale.
C'est ça, c'est Laurent Honnel, exactement, Fatal Olaf.
Ben oui, c'était Olaf qui était accompagné par Laurent Honnel qui sera au Zénith de Paris le 30 mai avec
Fatal Picard.
Les Fatal Picard, absolument.
Excellent. Merci, bravo. Merci, bravo. Bravo, bravo, bravo. C'était vachement bien.
Ouais. Ouais.
Il faudrait que ce soit la BO.
En combien de temps vous avez écrit ça?
Ça fait 6 mois qu'on bosse aussi, Michel. 6 mois. Jour et nuit.
Toute la famille que j'aime.
Vous savez que j'ai chanté avec Johnny?
C'est vrai?
Wow. Oui, oui.
Alors attendez.
J'ai chanté
sur scène.
Parce que ça se à la télé.
Ah, c'est vrai?
Un jour, on m'appelle, il y a longtemps, et on me dit, il y a Johnny qui veut te voir. Je fais, ah bon, c'est gentil, mais...
Je lui envoie un DVD.
Alors, il était venu me voir sur scène, et puis, j'arrive dans un appartement, je me retrouve en face de Johnny, il y a 2 couverts, et je suis tout seul avec lui. Et les gens qui m'ont appelé me disent, bon, ben, bon dîner, et ils s'en vont. Et je me retrouve seul avec Johnny.
À manger.
Ouais.
Alors qu'est-ce qu'il vous a fait à manger?
Le mec, il a bu, je sais pas ce qu'il a fait, pourquoi moi, enfin bon.
Pas le genre.
Non. Au bout de... Il me dit, voilà, je vais faire une émission de télévision, je veux que tu la présentes avec moi. J'ai dit, non. J'ai dit, Johnny, c'est gentil, c'est pas mon métier.
On est en quelle année, là, à peu près? Non, mais à quelle période? On est dans les années 80, 90, on est en 2000?
Je pense 92, 93, okay. Un truc comme ça.
D'accord.
Ça fait 10, 15, 10, 12 ans que tout le monde me connaît. Et je lui dis non. Et puis, il se met à parler, comme ça, de sa vie, de tout ça, de son père. Au bout de 2 minutes, je dis bon, je la fais l'émission. Tellement il m'avait touché.
C'est joli.
Et je me retrouve donc à
préparer.
Enfin,
pour la co-présenter ou pour la... Parce que là, vous avez dit, j'ai chanté.
Attends, donc co-présente avec lui. Donc, okay. On commence à parler de l'émission. Et à un moment donné, il me dit, bon, ça serait bien que tu fasses une chanson de Johnny. J'ai dit, t'as bu, toi, arrête.
Johnny dit, ça serait bien que tu fasses une chanson de Johnny.
Ouais, ouais.
Ah, j'adore. Ouais.
Un côté Alain Delon aussi.
Non, non, il n'a pas dit comme ça, mais je ne sais plus comment il a dit, ça fait tellement longtemps.
Il a dit.
Et finalement, on tombe sur... il me dit, bon, j'ai une idée. J'ai dit, non, je ne chanterai pas. Il me dit, j'ai une idée.
Et on a pris... Johnny a l'idée.
Okay, oui. Alors, s'il vous plaît,
dans la pièce, on l'a fait cette blague, mais on l'a fait genre c'est lourd. Bon. Et il me sort qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Et il me dit voilà l'idée. Et vraiment, il était plus brillant qu'on le pense. Hein, franchement, il était extrêmement malin. Il me dit tu vas dire le texte sur la musique et moi je vais chanter le refrain.
C'est super.
Et
faire un sketch, quoi, en fait, quelque part.
Ouais, mais c'était... il m'a dit, on déconne pas. Donc, il m'a donné un blouson en cuir, un machin. J'ai dit ce texte en étant... en le jouant, vraiment.
Okay.
Et j'étais assez ému. Hein, et il était à côté, un peu derrière moi. Et il chantait le refrain. Et moi, j'ai les images. Enfin, elles existent, quoi. C'est un super souvenir. Super souvenir. Et ça marchait, mais alors... Vachement bien.
Alors revenons à cette pièce.
Oui, excusez-moi.
Tout à fait. Non, mais parce que justement, vous jouez et vous appelez Jean-Philippe dans la pièce, totalement fan de Johnny, avec tellement fan de Johnny que ses deux enfants s'appellent David et Laura. Ça commence mal puisque il est veuf, ce personnage, avec les l'urne funéraire de sa femme qui se déplace pendant la pièce et qui en devient une comédie, entre guillemets, et sauf qu'il veut tellement faire tout comme Johnny, les enfants en tout cas ont ça en tête, il veut tout faire comme Johnny, se faire opérer de la hanche comme Johnny, qu'ils ont qu'une crainte, c'est que malheureusement l'héritage de Johnny qui a défrayé la chronique devienne leur problème, c'est ça le point de départ.
Exactement, c'est le prétexte pour parler de l'héritage, le prétexte pour parler de l'angoisse et de l'obsession des enfants que de récupérer les biens de leurs parents.
Alors, les deux enfants ne sont pas exactement joués par Guillaume Bouchède et Anne-Sophie Germanaz, n'ont pas exactement les mêmes, le même rapport à la réussite, à l'argent ou à l'intérêt.
Exactement, ni même le même quotient intellectuel.
Le garçon est assez maladroit, on va dire.
Oui, maladroit, c'est gentil.
Bah, je sais pas comment le décrire, il joue.
C'est un tronc d'arbre.
Non.
Le fils, c'est un tronc d'arbre.
Non, il a sa sensibilité, que l'on va découvrir d'ailleurs au fur et à mesure de la pièce.
Oui, non, il est sensible, il l'est. Mais con, c'est sûr. Et je l'adore. Le comédien qui fait ça, je l'adore.
Guillaume Bouchède.
C'est d'ailleurs incroyable, si je peux me permettre encore une parenthèse. Un garçon comme Guillaume Bouchède, que nous, dans notre métier, on le connaît très bien, il a deux Molières. D'accord, c'est important quand même. Moi, j'en ai pas. Pour vous donner une idée, eh ben, c'est injuste. Lui, il n'est pas connu du grand public, mais pas du tout, ou très peu, que des gens du théâtre.
Alors, j'ai envie de dire, on reconnaît son visage, on n'a pas forcément le nom qui va avec le malheureusement, mais on l'a déjà vu, beaucoup vu. Et
c'est un comédien magnifique, vraiment magnifique. Donc.
Et votre fille, donc jouée par Anne-Sophie Germanaz, est plus intéressée. Elle est beaucoup plus.
Ah oui, elle est maligne, elle. Elle, c'est la maligne de l'affaire. Ouais, c'est elle qui monte le coup. Et elle fait croire à son frère qu'il est dans le coup, mais en fait, c'est elle la patronne du coup. Quand je dis qu'il est simple, c'est que quand il découvre un message à propos d'une Marie-Claire, il se met à penser les deux que c'est une maîtresse qu'il aurait depuis la mort de sa femme. En fait, c'est le magazine. Et quand il leur dit,
il n'y a pas
que Marie-Claire, il y a elle aussi. Elle comprend que c'est des magazines et l'autre il fait d'accord, mais personne nous dit qui c'est
avec,
elle.
Avec des petits moments de gêne au milieu
Scène. C'est marrant parce que le sujet est très grave et on rit beaucoup.
Raphaëline Goupillot, quand même, pour le préciser, est une, puisque ça va aller jusqu'à une analyse psy de l'état mental du père, joue la médecine qui vient, la doctoresse qui vient se mêler de toute cette histoire.
C'est bien comme pastiche.
Et ça, ouais, c'est une musique faite à la Johnny Hallyday sans que ce soit celle de Johnny.
Oui, absolument.
Et qui fait la bande originale de cette pièce de théâtre, au théâtre des variétés. Michel Boujna, Guillaume Bouchède, Anne-Sophie Germanaz et Raphaëline Goupillot, toute la famille que j'aime. Voici Bruno Pecky. Vous n'auriez pas fait, vous, une pièce comme ça sur l'héritage ?
Eh non, Nagui, évidemment que j'aurais pas fait une pièce comme ça, quoi. Mais j'aurais quand même gardé Michel Boujna.
Ah, c'est sympa.
Alors, j'ai rien contre les autres comédiens, mais c'est juste qu'avec Michel, on a une relation particulière, et il est très important dans ma vie, Michou. Parce qu'il y a presque 2 ans, le 28 juin 2024, je faisais ma première chronique sur France Inter, et l'invité était Jean-François Piège, qui n'a absolument rien à faire au début de cette chronique. Mais non, évidemment, l'invité, c'était Mich. Et je me souviens avoir marqué Michel Boujna avec cette chronique, parce que ce matin, en arrivant dans le studio, quand je lui ai dit bonjour, il m'a répondu « Enchanté ». Sous-entendu, bien sûr, « Enchanté de vous revoir, talentueux et fabuleux, trublion radiophonique ». Mais ça, c'est la pudeur polie dans cette grande famille qu'est la nôtre des célébrités françaises. Donc, je suis content de recevoir Michel Boujna, parce que ça me rappelle mes débuts. Il y a 2 ans, je veux dire, j'étais un jeune humoriste qui galérait et tentait de se faire une place dans l'humour francophone, alors qu'aujourd'hui... Bref, parlons de votre pièce. On l'a dit, elle parle d'héritage. Et désolé de casser l'ambiance, mais moi, je suis contre. Voilà, je trouve que l'héritage perpétue les inégalités en reproduisant automatiquement les privilèges et surtout, mes parents sont profs, donc j'ai le seum. Voilà. Non, mais le seul héritage qu'ils vont me laisser, il est culturel. J'ai essayé, mais avec ça, tu peux pas devenir propriétaire. Mais c'est pas grave si j'hérite pas d'argent, parce que le respect, le partage et l'empathie, c'est ça, l'héritage avec un grand E. Après, j'ai rien contre les riches. Moi-même, j'ai un ami qui est riche. Enfin, un ami. Pour l'instant, c'est mon patron à la radio, mais pour 2 ans, on se voit toutes les semaines. Je suis prêt à passer à l'étape supérieure dans notre relation. Bah ouais, non, mais j'ai réfléchi. Mais en ce moment, dans mes contacts, il n'y a que Nagui qui pourrait me faire toucher un gros héritage. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis devenu chroniqueur dans l'émission. Rien à voir avec le nombre d'héritages. En revanche, l'âge de l'animateur, c'était avant que j'apprenne qu'il avait déjà des enfants. Que moi, j'appelle plutôt des obstacles à mon épanouissement matériel. Après, c'est ce que vous dites, hein, pas le meilleur choix de cibler un animateur télé au vu de leur longévité. Et c'est vrai. Donc, ce que j'ai fait, C'est que j'ai parlé de la pièce Toute la famille que j'aime aux enfants de Nagui et on a élaboré un plan. Moi, je m'occupe de le cancel, eux, de le faire devenir fou et après, je touche un pourcentage de leur héritage.
Pas mal.
Bah, je leur ai dit que c'était pas très compliqué hein, de cancel Nagui parce qu'on parle quand même d'un mec qui écoute Bertrand Cantat dans sa loge et qui envoie des messages de soutien à Jean-Marc Morandini depuis son ordinateur avec un sticker I love ice dessus. Allez, hop, étape 1, facile. Pour l'étape 2, ils auront qu'à utiliser sa retraite forcée pour le faire devenir fou. Genre, ils vont l'obliger à regarder tous les soirs un jeu télé avec des anonymes qui chantent pas super bien et qui doivent pas oublier les paroles. L'enfer, quoi. Alors, je suis désolé, mais je suis obligé de compter sur un héritage parce que, comme humoriste, il n'y a pas de quoi mettre beaucoup de côté pour la retraite. Hein. La preuve, il n'y a pas d'âge de retraite. Même les meilleurs humoristes de leur génération, à 73 ans, ils continuent de charbonner dans des pièces de théâtre.
Ouais.
D'excellentes pièces de théâtre, hein. Dignes d'une pièce de Shakespeare. Mmh. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est la metteuse en scène de la pièce de Toute la famille que j'aime, de cette presse. Ah. On dirait la biographie que j'ai moi-même écrite pour promouvoir mes spectacles. Chroniqueur incontournable de France Inter depuis maintenant 2 ans, Bruno Pecky est le chouchou de Nagui, venait découvrir son one-man show digne d'un spectacle de Molière. En parlant de Molière, j'ai lu, Michel Boujenah, que vous aviez encore plein d'envies à réaliser, comme celle de devenir grand-père, de réussir enfin à pêcher un poisson, et de retrouver Molière. Et pour la dernière, j'ai une idée, mais ça implique ne plus être dispo pour la pêche ou vos petits-enfants. Mais ça leur laissera un héritage. Hein. Enfin, non, mais ce qu'il en reste. Car j'ai lu qu'après le succès de 3 hommes et un couffin, vous avez multiplié les excès jusqu'à louer un avion pour déjeuner à Venise. Et ah c'est ouais. vrai que pour manger dans une ville avec des pigeons partout dans les rues, bondés de touristes et pour un prix beaucoup trop élevé pour ce que c'est, vous ne pouviez vraiment pas le faire à Paris. Après, je veux bien quand même le nom du resto à Venise, hein, parce que si tout se passe bien, j'ai bientôt un héritage à dépenser.
Ouais, ouais, c'est ça. Dans tes rêves.
Et il est sur scène, le Bruno Pecky.
Bruno Pecky ?
Ouais, ce samedi 21 mars, au point virgule, c'est à quelle heure ?
À 21h30.
Ah, il joue après moi, alors.
Ah oui, bah,
l'homme à la chevalière.
Absolument. Qui la porte pas encore, parce qu'il a des petits doigts.
Michel Boujenah, avec donc Guillaume Bouched, Anne-Sophie Germanaz, Raphaëline Goupillot. La pièce est co-signée par Sacha Judasco et Fabrice Dognaud, mise en scène par Anne Bouvier. Et en effet, dans le dossier de presse, tu as raison, il y a les commentaires avec ce que la presse aurait pu dire.
Oui, ça m'a fait marrer aussi.
La famille Bélier version Breaking Bad, ou ouais. des dialogues ciselés comme des rasoirs, un casting au sommet. J'adore l'idée aussi de ce
tour. J'avais pas lu ça.
Ah, c'est super drôle. Justement, faire une comédie d'une situation dramatique, ça c'est le point de départ de beaucoup de choses, y compris...
De toutes les comédies.
Ouais, Molière, Goldoni et autres. Et de voir comment donc ces enfants vont chercher à manipuler ou à récupérer un héritage. Ils ne savent même pas réellement ce qui se passe. Ils ne connaissent pas très bien leur père. Ils ne savent même pas s'il est en train ou pas de refaire sa vie avec une autre femme. Ils n'ont qu'une inquiétude, ne pas toucher l'héritage.
Absolument. C'est terrible parce que déjà quand les gens meurent, il y a des gens qui se déchirent pour l'héritage, mais là, ils sont prêts même à se déchirer du
vivant.
Le père, il est encore vivant.
Ouais, c'est ça.
Et pour, d'ailleurs, quand ils appellent un notaire...
Il bouge encore, quoi.
Ouais, il bouge. Ah, ouais. Et il bouge. Et il bouge. C'est très... ce qui est très drôle aussi, c'est qu'ils font venir un psychiatre. Ils font croire au père que c'est une femme qu'ils ont envie qu'ils rencontrent.
Et... Pour récupérer la tutelle, ouais. en fait, pour récupérer la signature.
Exactement. Et le psychiatre, il est là pour soigner le père à qui ils ont dit que... Il était complètement cinglé.
Pour ajouter une difficulté supplémentaire, le papa est un riche industriel qui emploie son fils.
Oui, absolument. Enfin, officiellement, c'est un riche industriel. Je ne vous dirai pas la suite, mais officiellement, c'est un riche industriel.
En tout cas, il emploie son fils.
Oui, il emploie son fils et il le vire. Il le fait virer.
Du moins, ouais.
Au début, il dit...
Comment lui annoncer qu'il est viré ?
Voilà, exactement. C'est-à-dire que le fils est angoissé parce qu'il pense qu'il va être viré. Et le père dit, mais jamais ça n'arrivera, t'es fou. Et il appelle le bureau en disant, vous ne lui avez pas encore dit qu'il était viré ?
Et pire, il charge sa fille, donc la sœur, d'annoncer au frère qu'il est viré. Donc
chez moi, on dit c'est un chaouef de première.
C'est ok.
C'est-à-dire un trouillard.
L'électricité est tangible. C'est une comédie rythmée sur laquelle, alors je ne sais pas à quel point vous prenez du plaisir, on parle beaucoup de vous tout au long de la pièce sans que vous soyez forcément là. Il y a beaucoup d'entrées et de sorties entre la cuisine, la table.
C'est un exercice assez compliqué pour moi parce que d'habitude.
Vous avez l'habitude d'être seul en scène, d'être là du début jusqu'à la fin.
Exactement. Mmh. C'est un exercice très compliqué et ça a été très compliqué pour moi, mais je m'amuse comme un fou. Franchement, c'est. Ça me fait un bien fou en ce moment de jouer cette pièce. Et quand on me l'a proposé, ça m'a fait un bien fou de me dire, bon, là, pendant un an et demi, je vais être en dehors de mes obsessions.
Mais non, ça s'arrête le 8 mai.
Non, parce qu'après, il y a la tournée.
Ah, d'accord, ok.
Et alors,
pourquoi ça s'arrête si tôt, d'ailleurs, cette pièce? Je veux bien croire qu'il y a le festival de Ramatuelle à préparer, mais...
Parce qu'on commence en janvier, que moi, okay. J'ai besoin de... À un moment donné, je ne suis pas une machine, hein. J'ai besoin d'aller à la pêche pour essayer enfin d'attraper un poisson. Parce que je n'y arriverai pas, je n'y arriverai jamais. Je sais qu'il y a un
faut
truc...
l'accepter, maintenant.
Ouais. Entre les poissons et moi, il y a un truc. Et voilà, donc... Mai, juin... Juillet, après il y a le festival Ramatuelle, et puis voilà, et puis après ça reprend. Donc,
après il y aura la tournée du mercredi au dimanche, en tout cas, ça se joue, c'est à 21h du mercredi au samedi. Et
on joue quand même 100 fois. Hein.
Double dose le samedi, oui. 16h30 et 21h. Et matinée également, le dimanche à 16h30, toute la famille que j'aime. Oh point de départ de la pièce. Un fan de Johnny qui a des tableaux de Johnny qui s'est peut-être fait cambrioler, mais pas les tableaux de Johnny, il comprend pas tellement ce sont des pièces.
Chose de valeur pour lui.
Évidemment. Fan de Johnny, ses deux enfants s'appellent David et Laura. Il veut tout faire comme Johnny, ce qui donc inquiète les enfants en disant mais qu'est-ce qui va se passer pour notre héritage, toute la famille que j'aime au théâtre des variétés. Voici Camille là-bas. Bravo.
Désolé, non, on n'a pas Camille aujourd'hui. Merde. C'est Karine Dubaillet, elle est candidate malheureuse aux élections municipales du village de Castelpignon sous l'étiquette PPV, vous savez, le célèbre Parti pour la Vérité. Anciennement, vous savez, Nagui, l'UDD, CIFMC, l'Union de Défense contre les Illuminati, les Francs-Maçons et la Coriandre. Je me retourne vers elle. Donc, Karine, bonjour.
Pardon, là, les micros, oui. J'imagine que ça enregistre, hein, c'est parce qu'ils nous écoutent.
Oui, mais enfin...
Évidemment, mais vous ne faites pas peur.
Bon, très bien, donc Karine Dubaillet, les gens qui ne vous connaîtraient pas, j'aimerais bien que vous présentiez un peu votre parcours.
Bah, tiens, question typique des médias dominants à la solde de vous savez qui, bref.
Excusez-moi.
Donc Karine Dubaillet, 40 ans, femme biologique, maman, naturopathe, éveillée.
Donc comme je le disais ou que j'essayais de le dire, vous avez malheureusement été éliminée hier dès le premier tour de l'élection. Qu'est-ce qui, selon vous, a manqué à votre campagne ?
Bon, écoutez, je vous apprends rien en vous disant que les puissances de l'argent sont extrêmement présentes dans le jeu électoral en Ille-et-Vilaine. Je crois bien que ce premier tour l'a encore démontré. Hein.
C'est-à-dire ?
Oh, je sais pas, hein. La directrice de l'agence du Crédit Mutuel de Bréal-sous-Montfort qui me refusait un prêt pour financer ma campagne sous le prétexte que je ne souhaite pas indiquer mon nom complet. Enfin, vous trouvez ça normal ? Pardon.
Enfin là, je sais pas trop. Là,
bah voilà, vous savez pas. Il y a pas plus aveugle que celui qui veut pas voir, en fait.
Alors, ce que vous voulez dire, si je comprends bien, c'est que toute l'élection elle-même, c'est ça qui est corrompu, en fait.
Bah, bien sûr. Ah bah bien sûr. L'Ille-et-Vilaine est un centre névralgique de l'activité reptilienne. Oui, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube. YouTube, Karine Wants the Truth, et dans le podcast de Francis Lalanne, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais ce qu'il faut bien comprendre à l'heure actuelle, c'est qu'à Castelpignon, c'est toute l'administration municipale qui est compromise.
Ah, hein. D'ailleurs, je crois, à ce sujet-là, vous avez accusé la maire actuelle d'être elle-même une reptilienne, c'est ça ?
Alors, non, je n'accuse pas, non, je n'accuse pas, je constate.
Bon, pardon.
Et au dernier conseil municipal, je lui ai même dit, je lui ai même dit en face à madame la maire, oui, évidemment, qu'est-ce qu'elle a fait ? Bah, tout de suite, elle s'est mise à chouiner, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? C'est une maladie, gna gna gna. Oui, bien sûr, comme si je ne savais pas faire la différence entre un psoriasis et des écailles.
Attendez,
une maire reptilienne, un adjoint à la culture franc-maçon, un responsable espace vert Illuminati. Oui, Francis, je parle de toi. Et si ce n'est pas vrai, alors qu'est-ce que tu fous avec un énorme triangle dans le coffre de ta Punto. Et après, on s'étonne que les travaux de voirie ne soient pas effectués depuis 6 mois.
Non, mais pardon, excusez-moi la Karine, mais quel rapport ?
Quel rapport ? Je ne vous apprends quand même pas que les nids de poules de la rue Jean Jaurès forment un diagramme parfait de la constellation de la Vierge.
Or,
Vierge, oui. Puceau, Bruno Pecky. Oui. Bruno Pecky, Suisse. Oui. Suisse, évasion fiscale. Ouais. Je veux dire, non, mais ces gens-là ne se cachent même plus, quoi.
Non, mais très honnêtement, j'ai un peu de mal à vous suivre, quand même, Karine.
Alors, vous peut-être, mais les Castelpignonnais, eux, ne sont pas du tout.
Bon, très bien. Alors, sauf votre respect, croyez-moi, j'en ai. Pourquoi avez-vous réalisé un score aussi faible hier ? Ça, c'est la vraie question.
Oui,
pourquoi ?
Parce
que c'est quand même très, très faible.
Je vais répondre. Alors, pardonnez-moi, mais j'ai quand même fait 4% des suffrages.
Oui, je note, 4%, mais sur une commune de 25, ça fait une seule personne. Arrêtez-moi si je me trompe.
Et je ne vous dirai jamais qui c'est.
Oui, ça va, je crois qu'on a compris. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Karine.
Merci. Free Castelpignon.
et Castelpignolet.
Eh oui, et c'est dommage que cette personne ne soit toujours pas sur scène.
Pas encore.
Camille Lavard, bientôt le comeback, je serai le premier à l'annoncer.
Elle fuit, elle reviendra. et elle est toujours sur Netflix
Oui, toujours. Non, mais je serai quand même au Théâtre du Rond-Point avec François-Régis Gaudry, pardon, 1er et 3 avril.
Bah voilà, ah, faut le dire. Assume, 1er 2 avril au...
1, 2, 3 avril au Théâtre du Rond-Point.
Très bien.
À Paris.
Tout à l'heure, nous allons recevoir Thibaut Geoffretin, journaliste, écrivain, fan de Johnny, qui va nous parler justement des fans de Johnny. On parle d'héritage matériel, mais dans la transmission, il y a aussi justement des valeurs qui sont transmises. Si vous aviez un enseignement que vos grands-parents ou vos parents vous ont transmis, Michel Boujna, ça serait lequel ? Quelle valeur, justement, morale, humaine, vous ont-ils
Va au bout de tes rêves. C'est ce que m'a dit mon père.
Et Jean-Jacques Goldman, quand même.
Vers toute la variété française.
Mais Jean-Jacques Goldman, je pense qu'il était tout petit quand mon père a dit ça.
Va au bout de tes rêves, non, c'est joli.
Il m'a dit, ne transige pas avec ça, jamais. C'était à un moment donné très particulier de ma vie où j'étais absolument en larmes parce qu'il m'avait juste dit, t'en es où ?
Ah. Avec un peu de doute et d'inquiétude, j'imagine,
ouais,
sur l'avenir.
Et j'ai dit, écoute, papa. Et je suis tombé en larmes en disant, à quoi ça sert de faire du théâtre s'il n'y a jamais personne dans la salle ? Jamais.
C'est une bonne question.
Ouais, j'avais atteint un niveau extraordinaire, c'est-à-dire un jour, on jouait un spectacle dans la compagnie où j'étais. Et il y avait 10 personnes au début du spectacle, et à la moitié du spectacle, il n'y avait plus personne. On s'est rendu compte que tout le monde était parti, on s'est arrêté de jouer, évidemment.
Ouais.
Et c'était assez violent, quoi.
Et vous aviez quel âge, là ?
J'avais...
C'était de l'année dernière.
J'avais 22 ans, 23 ans. Mais ça faisait déjà 5-6 ans
et que... Et qu'est-ce qui fait, dans ces cas-là, qu'on ne lâche pas l'affaire, justement, et qu'on va au bout de ses rêves ?
Eh bien, je l'ai dit...
Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, c'est eux qui ont tort et pas moi ?
Non, on ne se dit pas que c'est eux qui ont tort et pas moi. On se dit que...
Est-ce que je suis fait pour ça,
ouais. Est-ce que c'est moi qui ai, c'est moi qui ai tort ? Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire ? Et j'ai dit, je vais encore faire un spectacle, et si ça ne marche pas, j'arrêterai, j'y ferai médecine, parce que c'était l'alternative dans ma vie. C'était ou médecin, ou le théâtre. Donc, j'aurais aussi adoré être médecin.
Ce qui est le cas de l'un de vos frères.
Oui, ouais, le problème, puis mon père était évidemment médecin, mais le théâtre était plus fort, c'était une maladie plus grave que le désir de faire médecine. Il fallait que je fasse ça. Donc j'ai fait un one-man show, parce que personne ne voulait être dans ma troupe, personne ne voulait travailler sur ce sujet-là, et j'ai fait ça tout seul.
Et c'était la dernière tentative.
Oui, c'était la dernière tentative, et ça c'est devenu viral en 9 jours.
Génial.
En 9 jours,
génial.
Complet. Bon, c'était un petit théâtre, c'était au Lucernaire, mais pour moi, le mot complet, c'est le plus beau mot de langue française. Et j'en
ça,
revenais
ça
pas.
Et rester jusqu'à la fin, qui était quand même les deux choses que vous étiez.
Je vous en prie,
complet au début, c'est bien, mais encore complet à la fin, c'est pas mal aussi.
Et pas d'invite.
J'ai vécu des choses absolument incroyables dans cette période-là, parce que j'en revenais pas, je savais pas d'où ils sortaient, les gens. Un jour, il y a Sophia Loren qui vient me voir.
Non.
Ouais, le directeur de théâtre vient me voir et fait, ce soir, il y a Sophia Loren. Je dis, arrête de déconner, qu'est-ce que Sophia Loren ? Fait, oui, si, il y a Sophia Loren. D'ailleurs, elle passe devant tout le monde, Sophia Loren. Il y a les gens qui attendent pour avoir leur ticket. Il dit, qui c'est celle-là ? Pourquoi elle rentre avant nous ? Il y a un type qui lui dit, mais c'est Sophia Loren. Il dit, qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, ça fait 15 jours que je me bats pour avoir une place. Et ma mère, évidemment, qui savait que Sophia Loren venait, elle avait sa place, ma mère. Il n'y avait pas de discussion, elle avait sa place en tête quand elle voulait. Personne
pas négociable, pas négociable.
Elle a vu où elle était placée, Sophia Loren, elle s'est mise deux rangs devant. Et quand c'était le bordel dans la salle, c'est toujours bordel parce qu'il y avait 150 personnes, une salle de 100 places, elle a dit assez fort, mais pas trop, parce qu'elle était maligne, c'est pas la faute de mon fils. Et Sophia Loren a dit, c'est votre fils. Et ma mère fait, vous avez entendu. C'est un souvenir magnifique.
Au Théâtre des Variétés, Michel Boujna, Guillaume Bouched, Anne-Sophie Germanaz et Raphaëline Goupillot dans Toute la famille que j'aime jusqu'au 8 mai. Et on parle donc des fans de Johnny avec Thibaut Geoffretin dans quelques instants. Mais la bande originale de Michel Boujna dans sa vie, il écoutait dans les années 60. I want you,
I want you, I want you so bad. Avec les pétards.
Bob Dylan, fumier de la drogue.
De l'herbe. Parce que le hashish, ça faisait dormir.
D'accord.
Par contre, l'herbe, c'était incroyable. Ça fait très 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 longtemps.
Oui, on rappelle.
Vous êtes en train de faire une petite promo.
On rappelle que c'est de la merde, c'est ça.
C'est de la drogue. C'est de la drogue quand même, ouais.
Mais deux secondes avant, il dit, moi je suis fils de médecin, je peux te dire que... Je vais te donner des conseils, moi, sur la consommation.
L'herbe, j'étais inarrêtable.
Mais ceci...
5h du matin. 5h du matin.
Michel, tout monde...
Michel, tu vas fermer ta gueule.
On vous entend, Michel.
Oui, bon, d'accord. En même temps. Parce que les gens, ils savent pas ce que c'est. C'est la meilleure de l'année, celle-là. Tous les auditeurs, ils sont en train de dire « Mais c'est de quoi qu'il parle ?»
En même temps, quand on voit ce qu'il est devenu, c'est à te dégoûter de la drogue.
Hein. Il a 25 ans. Hein,
enfin, non, mais c'est pas bien. Moi, j'ai arrêté.
Votre papa,
il y a deux heures,
votre papa médecin, soignait quelqu'un à l'école alsacienne, c'est comme ça que vous avez pu...
Il soignait la sœur du surveillant général. Et on voulait m'orienter en technique. Je sais pas ce qu'il aura pris. Parce que moi, pour planter un clou, si je plante un clou, le mur il tombe. Donc,
il n'y a pas que planter des clous en technique, vous savez, Michel.
Oui, enfin, il y a aussi raboter, tout ça. Mais moi, je sais pas. J'ai une admiration folle pour les gens qui savent faire ça.
Qui sont manuels,
Et ils m'ont fait rentrer à l'école alsacienne. Enfin, j'ai passé un examen et j'ai été pris. À ma plus grande surprise, à la plus grande surprise de mon père, de ma mère, de ma tante,
de Paris.
Quel souvenir vous en avez gardé de l'école alsacienne? Parce que il y avait un cours de théâtre là-bas.
Il y avait un prof génial qui nous faisait faire du théâtre. Et moi, non, c'était surtout le fait que dans cette école, à l'époque, qui était une école vraiment pilote, subventionnée par l'État, mais pilote quand même, eh ben, on faisait des choses que dans les autres écoles, il n'y avait pas. Par exemple, à l'époque, il y avait des délégués de classe chez nous, il n'y en avait pas dans les autres. C'est après 68 que c'est arrivé. On faisait des exposés.
Vous avez fait un exposé sur les Justes, c'est ça?
Oui, le dernier des Justes. Ah. Et là, ça a été une révolution pour moi.
Alors pardon, la révolution pour vous, c'était l'émotion qui vous a envahi en faisant cet exposé ou de vous produire, entre guillemets, sur l'estrade et donc sur scène?
Pour la première fois de ma vie, j'ai découvert que j'étais capable de transmettre.
Et de parler à d'autres personnes.
Ouais, et qu'eux viennent me dire, putain, c'était super, tu nous fais quand un autre livre. Okay. Voilà. Et les gens de la troupe de théâtre de l'école qui étaient vraiment bien, parce que quand on jouait au théâtre, nous on jouait à la salle Gémier à Chaillot, on jouait au Tréteau de France, on jouait pas qu'un soir genre spectacle de fin d'année, on jouait 4, 5, 6 jours.
À quel moment vous avez compris le plaisir que vous avez à faire rire?
Alors, au début...
Vous étiez le clown de la classe?
Oui, je faisais partie en tout cas. Il y avait une prof d'histoire, je l'ai rendue folle, mais folle, elle voulait me tuer. Quel que soit le sujet, je parlais des chevaux. Je dis, mais madame, dans ce pays à cette époque, qu'est-ce que c'est le rôle des chevaux?
Le boulet, l'enfer.
Elle s'appelait madame Tramont, elle faisait Bouchna, je vous signale, si on parlait des chevaux, vous sortez tout de suite. Je me levais, je partais. Non, mais il y a eu deux étapes. En fait, il y avait le con dans la classe. Ça, c'était bien. Là, on allait très loin, on faisait des gros trucs. Ça, c'était bien. Les booms où j'étais gêné parce qu'on arrêtait la musique et on me demandait de raconter des histoires avec l'accent et j'étais une espèce d'animal folklorique et ça me permettait d'exister, mais en même temps j'étais gêné parce qu'on me voyait, on voyait que ça. C'est devenu mon étendard. Après j'en ai fait une force, mais à cette époque-là j'en souffrais beaucoup. Et la troisième étape, ça a été de découvrir la sensation physique que de faire rire. C'est érectile, si j'ose dire. C'était fou, quoi. C'était fou, la sensation que j'avais quand les gens riaient.
Ah bah, je pense que tout le monde ici autour de la peut vous comprendre.
On aimerait savoir.
Sauf moi.
On aimerait savoir.
Non, mais ça vous fait ça aussi.
Oui. Ah oui. Hein,
c'est un truc incroyable.
Érectile, peut-être pas.
Comment?
Et moi aussi, érectile, ok.
Absolument.
En 72. Prof supplémentaire, que la drogue, c'est de la merde. Racontez-moi cette chanson, et surtout en quel état vous étiez en l'écoutant.
Ah bah, un peu comme elle.
Fairport Convention, ouais. Who knows where the
mais
time goes.
Mais il n'y avait pas que Fairport Convention. Hein. Il n'y avait pas que cette chanson de Fairport Convention, il y avait des choses... Ça me rappelle, moi, le stop. On faisait du stop.
On allait d'où à où?
Bah, par exemple,
du salon à la chambre.
On était à Aix.
tellement défoncé. Tu me défonces.
On était avec son... On voulait aller dans le sud de l'Espagne. On n'a pratiquement pas dépassé Perpignan. Personne ne voulait nous prendre. On avait... Il y avait quatre avec un copain, il avait la guitare, les partitions par terre. Moi, j'étais allongé comme ça. Et de temps en temps, on faisait les signes pour les bagnoles. Mais enfin, on n'en avait rien à foutre d'avancer, quoi. On était contents. On était contents d'être sur la route. Qu'est-ce qu'on a rigolé.
Vous avez monté une troupe théâtrale.
Oui, bien sûr.
Cette troupe s'appelait La Grande Cuillère.
Oui, parce qu'il faut... Oui, on est post-68 à ce moment-là. Et il fallait une grande cuillère pour dîner avec le diable. Le diable, c'était le pouvoir. Le diable, c'était les autres. Le diable, c'était les méchants. Et on faisait du théâtre pour changer le monde. Et pour changer le monde, il fallait d'abord changer le théâtre. Donc, on faisait des spectacles qui n'étaient absolument pas... disons dans la règle. Donc on faisait des trucs dans les usines, on faisait
C'est à cette période là aussi où vous êtes occupé, vous avez travaillé avec des enfants handicapés mentaux.
Oui, ouais, c'était super, ils m'ont tout appris. En fait, avec le recul, je me rends compte à quel point ces enfants avec qui j'ai vécu pendant presque 8 ans 9 ans, je sais plus, ils m'ont montré le chemin, parce que ce qu'ils faisaient, c'était génial et ça avait un succès dingue. C'est-à-dire Françoise Dolto, Ariane Mouchkine, les gens venaient de partout voir les spectacles. Dès qu'il y avait un spectacle, tout le monde venait. C'était magnifique ce qu'ils faisaient. J'écrivais rien, hein. C'était eux qui faisaient tout. Moi, j'étais juste, je faisais semblant que je savais.
Alors c'est quoi, un metteur en scène vous...
Non, j'étais dernier de cordée. Okay. C'est-à-dire, c'était leur montagne, mais s'ils tombaient, j'étais là pour leur dire, c'est pas grave, on peut remonter. Et ils écrivaient, ils improvisaient, ils parlaient d'eux, mais c'était pas du psychodrame. On n'avait pas le droit.
Par contre, ça devait bouffer en termes d'énergie, donc j'imagine.
Ah, mais c'était dingue. Ouais. Dingue. C'est les séances de 2 heures. Après, je dormais pendant 4 heures. Mm-mm. J'étais mort. Mais en fait, la règle, c'était d'accord. Mais tu parles pas de toi au premier degré. Mm. Donc, t'as pas ton âge, t'as pas ton prénom. Et à ce moment-là, tu peux dire tout ce que tu veux. Ce qui est
un bon point de départ pour le théâtre, déjà.
Bien sûr. Après, tu peux être très intime. C'est comme le masque de mentir. Et là, tu peux mentir véritablement, ça veut dire plein de choses sincères. Et c'était bouleversant. Et j'étais jaloux. Je me disais, mon Dieu, comme c'est bien ce qu'ils font. Pourquoi moi, je ne fais pas... Et un jour, j'ai fait pareil. Et c'est comme ça que ça a marché aussi.
En vous débarrassant de votre identité, en vous débarrassant...
Exactement, en me servant de ce que je suis.
En fait, ils vous ont appris.
Et tout, ils m'ont tout appris. Moi, la mère de mes spectacles, Simone Boutboul, c'est pas ma mère. Ma mère, elle mesurait 1m50. Elle chaussait du 33. Simone Boutboul, pour moi, elle mesure 1m85 et elle pèse 130 kilos. Tu vois, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui t'emmerde, tu lâches ta mère, le mec, il est mort. Donc, c'était une mère fantasmée. Ouais. C'était une autre mère. C'était une mère imaginaire. Et j'ai réussi à faire cette mère imaginaire parce que je leur avais. Je leur avais demandé de faire la même chose. Tu comprends ? Quand un gosse dit... ils avaient mis un mec sur une chaise et le mec, il était derrière. Le gosse, il disait, ça, c'est mon père. Il disait, quand mon père il regarde la télé, je peux dire tout ce que je veux. Par exemple, espèce de con. Il faut imaginer des gosses de 13 ans devant leurs camarades, l'administration, les parents, sur scène. Hein. Espèce de con. Enculé. Faire une pipe. Tu vois, ils n'entendent rien. Je peux dire ce que je veux. La prof de maths, je vais la buter tellement elle est con. Elle est dans la salle. Hein. Et en même temps, il disait, attention, on ne parle pas de vous. Hein. Et c'était d'une violence, d'un humour, d'un... Moi, franchement, ils m'ont tout... Je vous dis, franchement, on apprend en apprenant, je pense. Et c'est pour ça que je veux finir ma vie en retournant à ce travail-là. Ça veut dire
dans la transmission.
Ouais, c'est un bonheur, une joie incroyable que de transmettre.
1980, Michel Boujna, vous écoutiez.
Et plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour. C'est vous.
Une période assez clé quand même dans votre vie, à la fois le cinéma et le One Man Show. Tout arrive en même temps.
Oui, le succès, le gros, le succès avait déjà un peu commencé, mais là c'est démultiplié par. J'avais quoi moi ? J'avais une petite Fiat 500 et on m'a mis la nitroglycérine dedans quoi. J'avais plus à conduire. C'était complètement dingue. Entre
le premier film, c'était lequel finalement ?
Oh non.
Quoi,
parce que j'ai fait un film qui s'appelait « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes ?» C'est-à-dire que toute ma vie, je regrette d'avoir fait ce film. Le seul truc
vous voulez dire qu'il est pire que le film qu'on a fait tous les deux ?
Ah oui.
Ah bon.
Le film qu'on a fait tous les deux, c'est un chef-d'œuvre à côté. Ah, non, mais ah, tu rigoles ou quoi? Non. Là, c'était le seul truc qui était bien, c'était Lorraine Bracco qui jouait ma fiancée et qui est devenue après la psy dans ce feuilleton américain génial.
Allez, Soprano.
Soprano. Ouais. Voilà. Mais sinon, non, c'était pas. Non, Le Couffin, c'est pas mon premier film. Il y a eu aussi un film avec John Berry comme metteur en scène et Myriam Boyer.
Et Les Magnifiques.
Et en même temps, Les Magnifiques. Mais c'était complètement dingue. Hein.
Les Magnifiques ont beaucoup évolué entre. Il y a eu
trois versions.
V1, V2, V3, c'est ça,
ouais. Ouais. Il y a eu trois épisodes, on va dire. Oui, tout le temps. Tout le temps, c'est plus les mêmes du tout. Mais sauf les trois vieux, quoi. Sauf les... N'oublie pas tes vieux. Voilà. C'est ridicule hein, de dire ça aujourd'hui où on est dans le jeunisme absolu. Voilà. Où moi, j'arrête pas d'entendre que je suis vieux par plein de gens.
Oui, parce que c'est un défaut.
Oui, c'est un défaut.
Ah bon?
Ah oui.
Non,
oui. On te regarde comme un défaut. T'es un défaut. Moi, j'ai
73 ans. Je n'osais pas vous en parler, Michel.
Oui, je sais. Oui, mais on peut faire équipe.
On peut faire équipe. Tant même.
Voilà, c'est pas du passé de pas oublier. C'est pas du passé. C'est au contraire. C'est de l'avenir de pas oublier.
On va parler du passé, pourtant, là, maintenant, avec vous, Thibaut Geoffrotin. Merci d'être notre invité. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste et fan de Johnny. Fan à quel point?
Fan au point de l'avoir vu 70 fois en concert.
70 fois?
Ça fait une somme.
Pendant les 10 dernières années de sa carrière, puisque je suis jeune, donc malheureusement, j'ai loupé une grande partie de sa carrière. Donc,
quel était le premier concert?
Le premier, c'est Flashback Tour 2007 au Zénith de Pau. Donc, je suis au lycée, j'ai 17-18 ans et je sors du spectacle en me disant, cet homme-là, je vais essayer de le voir le plus souvent que je peux dans ma vie parce que c'était extraordinaire, un charisme, une voix, et cette impression de me dire, mais c'est le vrai Johnny que j'ai vu sur scène, c'est pas celui que je vois à la télé, celui que j'écoute dans mes disques. Il s'est passé quelque chose d'électrique.
Ce sentiment était égal à chaque soirée, c'est-à-dire chaque fois c'était différent, magnétique et électrique.
Ouais, toujours différent. J'ai été le voir parfois jusqu'à 4 fois d'affilée quand il enchaînait les Bercy, quand il enchaînait les Stades de France, j'y allais tous les soirs. Et il y avait toujours quelque chose de différent dans sa manière, dans les regards. En plus, j'essayais d'aller toujours au premier rang pour vraiment partager, parfois avec un contact physique avec lui. Pour aller au premier rang, il fallait arriver la veille, parfois 2-3 jours avant, devant les Zéniths ou devant le stade. Mais c'était chaque soir encore plus fort. Et si j'avais pu le voir 1000 fois, j'aurais été le voir 1000 fois. Quoi.
Et il y avait des moments où vous avez remarqué que le professionnel qu'il était d'un côté et de l'autre, l'animal instinctif, la bête de scène, comme on dit.
Oui, parce que alors le spectacle était toujours le même. C'était parfois il disait les mêmes mots avant chaque chanson.
Parce que c'était cadré, parce que
exactement
l'intro, l'entrée sur scène était essentielle pour lui. La sortie aussi, c'était Maurice Chevalier qui avait dit cette
oui,
phrase.
Oui, soigne ton entrée, soigne ta sortie, puis entre les deux tu te débrouilles.
C'est très mousse.
C'est ce que lui avait dit Maurice Chevalier. Et puis parfois il y avait ce côté instinctif où il changeait quelque chose. Je me souviens un soir au Zénith de Saint-Étienne. Sur la fin de Je te promets, il était parti dans une improvisation, vous savez, sur les dernières notes de la fin, et il était parti dans les aigus, quelque chose de totalement différent. Et là, je m'étais dit, waouh, ça vaut le coup d'aller le voir aussi souvent parce qu'on a eu un truc incroyable, peut-être même pas enregistré.
Ah, un moment unique, quoi.
Exactement.
Fan de Johnny, est-ce que vous avez gardé des objets, est-ce que vous l'avez rencontré?
Oui, j'ai ces lunettes, ces Ray-Ban qu'il portait un soir, et sur la tournée Restez Vivant Tour, il les jetait au bout de 5-6 chansons chaque soir au public. Donc j'ai ces lunettes précieusement rangées chez moi. Et j'ai eu la chance de le rencontrer puisque j'étais jeune journaliste sur la fin de sa carrière. Et j'allais voir tout le temps les attachés de presse, les managers. Je veux faire une interview de Johnny, je veux rencontrer Johnny. Et j'ai eu la chance de l'interviewer pour un journal régional pour lequel je travaillais à l'époque, la République des Pyrénées. Et j'ai eu un quart d'heure dans sa loge.
Sans être déçu de cette rencontre.
Non, c'est ça qui est fou, c'est que j'avais peur. Je tremblais devant la loge en me disant je vais rencontrer mon idole et si je suis déçu et s'il n'est pas sympathique.
Ouais. Ce sera horrible.
Et en fait, je l'aime 100 fois plus depuis le jour où je l'ai rencontré parce que c'était quelqu'un d'extrêmement gentil, d'extrêmement simple. Il a vu que j'étais stressé. Je pense qu'on lui avait dit que j'étais journaliste, mais surtout très, très fan de lui. Et il m'a mis à l'aise. Il m'a proposé un bonbon. Je me souviens, il mangeait ses Mentos au citron. Il m'a dit, c'est très bon ça, vous en voulez un? J'ai dit, oui, bien sûr.
J'ai compris le message. Comment on propose un Mentos?
Comment vous avez vécu, et c'est ma dernière question, tout ce qui s'est passé après son départ. On parle de l'héritage, on parle du, justement de tout ce qui a malheureusement fait la une des journaux. Comment vous l'avez vécu en tant que fan ?
Ça a été difficile parce que ça nous volait un petit peu le deuil. En fait, on n'avait pas envie de cette guerre, on n'avait pas envie d'entrer surtout dans cette famille, on n'avait pas envie de prendre position, on avait juste envie d'essayer de vivre sans Johnny Hallyday, ce qui n'était pas évident.
Moi, juste garder le souvenir de l'artiste.
Voilà, ouais. Moi je suis parti dans l'écriture, du coup j'ai fait mon deuil grâce à l'écriture de mes livres sur Johnny, et d'ailleurs dans tous mes livres, j'ai jamais écrit un mot sur l'héritage parce que c'était pas à nous de prendre position. Et heureusement, ça s'est calmé un peu avec le temps, mais ça a été un peu rude.
Les livres dont vous parlez sont chez Talent Édition. Johnny, une étoile dans nos yeux, 160 témoignages inédits de fans et nos chansons préférées de Johnny. Merci beaucoup, merci Thibault, d'être venu à ce micro. Dans la prochaine demi-heure, Tanguy Passureau, bonjour. De quoi vas-tu nous parler ?
Des élections municipales, bien sûr, mais aussi de Patrick Sébastien, ou plutôt du sexe de Patrick Sébastien, qui le détourne d'une vie paisible.
Bien, on en parle, notre invité Michel Bougenat jusqu'à midi. La bande originale avec Emma Beaujean, avec Camille Lavabre, Bruno Pecky, Olga, Tanguy Passureau, Daniel Morin,
Camille,
et notre invité Michel Bougenat.
Non, mais si.
C'est gentil, je suis
bande originale.
Bouleversé.
Leïla Kadour et Nagui. Oh,
au théâtre des variétés. C'est bon. Ça vous donne la chair de poule quand ça commence comme ça, quand vous entendez cette musique ?
Ouais, ça donne la chair de poule parce que je meurs de trac.
Ouais. Toute la famille que j'aime au théâtre des variétés, Michel Bougenat joue le rôle de Jean-Philippe qui a deux enfants, David et Laura, joués par Guillaume Bouchède et Anne-Sophie Germanaz. Vous avez compris à quel point il était fan de Johnny. Tellement il veut faire tout comme Johnny, les enfants s'inquiètent de leur héritage, font appel à Raphaël Goupillot, qui est une psy, et ils veulent finalement récupérer la tutelle de tous les biens de cet homme riche, en disant mais non, on va pas, parce qu'il veut tout faire comme Johnny, on va pas se retrouver aussi avec un héritage qui va être totalement dilapidé. Et que va-t-il se passer dans nos vies ? C'est le point de départ, évidemment. La toile de fond, c'est Johnny. Et tout le plaisir et tout le bonheur de s'amuser autour et avec Johnny. Mais c'est vrai que les témoignages, à la fin, quand les gens vous parlent, ils vous parlent de leurs problèmes d'héritage.
Ah oui, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça, parce que la pièce est quand même légère. Et c'est très drôle. Le traitement est très drôle.
42%, presque la moitié des successions se passent mal.
Ouais, c'est fou.
Mais c'est pour ça que les gens rient, parce que ça part d'un problème tellement énorme que du coup, quand ça, on apporte un peu de légèreté, c'est dommage de regarder
ça. Mais quand on voit, je ne sais pas, quand on lit Le Roi Lear, parce que Le Roi Lear, c'est le même sujet. Type qui veut partir pour s'amuser, qui lègue tout à ses enfants, et il s'entretue, d'accord ? C'est un sujet vraiment... Mais alors, il est vraiment traité dans Le Roi Lear. Là, c'est un prétexte pour s'amuser avec ce sujet-là. Alors c'est vrai qu'on s'amuse jamais avec rien, on s'amuse toujours avec des choses qui font mal.
Il y a des choses qui résonnent.
Ouais, c'est ça, voilà, mais je m'attendais pas à autant de réactions, comme je suis surpris vraiment. Il y a même des gens dans la salle parfois qui font oh.
Et quand on se rend compte que chaque année il y a 130 milliards d'héritages.
En valeur ?
130 milliards d'euros en héritage en France. Hein,
Franchement, je ne savais pas que j'avais autant d'argent.
Que de la France. Il y a 400 000 successions par an à se partager, 130 milliards. Donc forcément, il y a un moment où il y a de quoi devenir fragile, dirons-nous, ou en tout cas suspicieux ou intéressé.
Fébrile.
Voilà.
Fébrile.
Et c'est terrible parce que ça fait des... Ça fait des drames là où on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des drames.
Oui, parce qu'on pense que amour dans une famille, on ne pense pas rupture des...
Et absolument.
Encore moins pour des histoires d'argent. Mais c'est le point de départ de cette comédie signée Sacha Judasco et Fabrice Dogneau. Voici Tanguy Passureau.
Hey, bravo.
Bien, toujours pas d'équipe au complet, on n'y arrive pas, hein, entre les malades et les vacanciers, et belle la France. Mais la gauche est en tête à Paris et donc à Inter, tout le monde est en train de revenir. On fait la fête depuis 6 heures du matin. Je ne sais pas si vous avez suivi les résultats, mais à Versailles, la candidate Reconquête, nom de ville, a perdu. Voilà, si vous n'avez pas la ref, c'est que vous n'étiez pas à l'écoute mercredi. Or, mes chroniques, c'est une œuvre globale. Hein, vous en ratez une, c'est
suivi.
Foutu. Moi, j'adore voter, d'ailleurs je le fais très bien. C'était ma 24e élection, je peux vous dire que j'ai un petit tiré de rideau dans l'isoloir, qui excite pas mal de vendeurs de Leroy Merlin. Et puis j'aime ce moment où on glisse son bulletin dans l'urne. L'urne, on dirait un glory hole pour Castor. Bref, toute la journée, on a suivi le scrutin sur les chaînes info. Ça faisait du bien parce qu'en général, on voit la guerre au Moyen-Orient, que certains appellent Proche-Orient. Ça doit dépendre de leur correction optique. Et là, juste une journée, le chaos du monde s'est tu. À la place, on a vu nos politiques, nos loulous, qui paraissent tout calmes à côté de Trump. Même Rachida Dati qui était sur la brèche avant. Là, on aurait dit qu'elle sortait de son atelier de yoga. J'aime la France. On est pépère. Le dimanche, on va à l'école, on vote, comme en 72. Les gens ont un gros cahier avec les noms. Ils mettent une règle avec un trou et on signe dans le trou. Ce que fait Patrick Sébastien lors de ses séances de dédicace. Ah, ben oui, mais Patrick Sébastien, le Beastougate. Vous avez regardé Complément d'enquête l'autre jour, non? Son concert au Cap d'Agde où une dame s'est mise à genoux devant lui. Ils avaient 30 vidéos de la scène, Complément d'enquête. Il y avait plus d'angles de vue que dans un film à 60 millions. J'en ai vu plus que je ne voulais en voir.
Ça, c'est vrai.
Hein, parce que déjà, tu me dis Cap d'Agde. Moi, je ne veux rien voir. Des Néerlandais au bronzage irrégulier, tu leur demandes pourquoi t'as une trace dans le cou, ils répondent c'est ma laisse cloutée qui bloque les UV. Bon, chacun son délire, moi, c'est le romantisme. Voilà. Je ne juge pas Patrick Sébastien, parce qu'une dame en nuisette sur scène est quand même venue lui toucher le sexe. Bon, moi, j'ai fait deux spectacles. Parfois, dans le public, j'ai de la milf. Hein, il y a plus de granit que chez mon primeur. Public France Inter, hein, on a rarement du fan de K-pop. Bon, bah, personne ne m'a jamais touché le sexe. C'est terrible, mais je ne suscite pas ça. Patrick Sébastien, si. Alors que tous ses poils sont blancs, enfin on dirait un caniche qui porte une gourmette, mais c'est incompréhensible. Donc la dame lui a attrapé l'engin, elle a dû suivre en son temps une filière d'apprentissage pour se diriger vers un métier manuel, et Sébastien, il est chaud. C'est une gaufre qui sort du moule. 80% de sa production intellectuelle est consacrée au pénis. Francky Vincent à côté, c'est un moine trappiste. Ce qui fait, Complément d'enquête l'a montré, qu'il a ouvert sa braguette et que c'est parti. Devant un public familial, dit le camping. Oui, bon, après, ça reste le Cap d'Agde. Je veux dire, quand on y va, on sait que ça peut partir à tout moment. À la supérette, quelqu'un dit « Chérie, j'ai oublié de prendre des Mister Freeze, il y a 15 mecs qui viennent se foutre dans le frigo. » Moi, qui l'été, aime plutôt faire des cahiers de jeu. Je ne vais pas au Cap d'Agde. J'ai pas envie de voir une personne venir vers moi avec sur le corps une grille de mots fléchés peinte et un stylo pour foutre les lettres. Et alors, cette histoire est allée plus loin parce que hier, alors qu'on était quand même sur les municipales, sujet sérieux, etc., Mediapart a publié une autre vidéo, parce qu'il y en a 10 000, hein, c'est la fête en camping la plus documentée de l'histoire, montrant Patrick Sébastien lors de cette fameuse soirée se mêler au public et dire aux gens, je cite, c'est quasiment du Chateaubriand, « Bon, c'est qui me le touche, le petit bonhomme en mousse ?» Et là, il parlait de son sexe, qui a 80 surnoms différents, et il l'adore. Hein, je pense que sur son passeport à Patrick Sébastien, sa photo, c'est une dick pic. Tout ça pour vous dire qu'il y a d'autres infos voilà, qui permettent de penser à autre chose qu'à la guerre. Tiens, deuxième exemple, les sourcils d'Adriana Carambeuf. Que s'est-il passé? Non, pardon, je dis pas que c'est pas beau. Je dis juste que se décolorer les sourcils, c'est obtenir volontairement la tête qu'Edouard Philippe a eue médicalement. Après qu'on veuille changer de look, je suis pour. Regardez notre déception à tous. Après 15 jours sans l'avoir vu, de récupérer Daniel Morin avec exactement le même physique. Pas de sourcils décolorés, hein, pas de traits sur le côté dans sa coupe de cheveux, même pas d'un plan fessier.
Il n'a pas changé.
Le printemps arrive, Michel, et on va se caresser. On va se caresser en pensant à qui, si se met pas d'un fessier, s'il y met pas du sien. Ouais, mais j'étais en train de penser à Adriana Carambeu avec ses sourcils déteints. Si ça se trouve, Marc Lavoine a fait pareil. Dans la famille, ils vont tous ressembler à des hamsters. Quand hier soir, peu à peu, les résultats électoraux sont tombés. Et vous avez vu, David Lisnard, DLR, a été réélu à 81% à Cannes, un score à la Mobutu. C'est le seul blanc à physique de mannequin Fursac qui a tapé des scores de dictateur africain. Mais en 2020, il avait fait 88%. Donc là, il doit être déçu, ne jamais partir de trop haut, comme on dit sur RTL. Robert Ménard, la star de la télé, pareil, réélu à Béziers. À Rennes, la gauche est numéro 1. Voilà, bon, c'est Rennes. Ouais. À Nantes aussi, mais la maire sortante PS est talonnée par un candidat de droite, Foulque Chombard de l'eau. Avec un nom comme ça, tu ne peux être que candidat de droite. Quand il est sorti du ventre de sa mère, Foulque Chombard de l'eau, je pense que Jacques Chirac en personne l'attendait avec sa carte du RPR. Sinon, j'ai vu sur Vinted ce matin une robe jaune poussin. Il se se pourrait que ce soit celle de Sarah Knafou qui n'a pas fait le score attendu. Et les gens sont surpris. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cartonner sur Internet ne signifie pas le faire dans la vraie vie. McFly et Carlito, pourquoi vous pensez qu'ils en sont à leur 37e année de vidéo YouTube dans une pièce dédiée? Voilà, retour à la guerre toute la semaine et on revote dimanche. Adriana Carambeu, d'ici là, ce sera peut-être poncer le nez.
Merci.
La tournée continue vendredi à Saint-Vallier, c'est dans la Drôme.
Au Théâtre des Variétés, Michel Boujna, Guillaume Bouched, Anne-Sophie Germanaz et Raphaëline Goupillot jusqu'au 8 mai. Toute la famille que j'aime autour d'une histoire d'héritage et d'une histoire d'amour dans la fratrie, dans la famille et de déchirement, mais évidemment une comédie avant tout. À voir donc jusqu'au 8 mai. Autre événement culturel, hier soir c'était les Oscars, je ne sais pas si vous avez suivi, assisté tard dans la nuit à ces Oscars. Défaite de Timothée Chalamet.
De Wagner Moura, surtout l'acteur brésilien.
Marty Suprême, on attendait beaucoup quand même.
Oui, non, mais c'est vrai.
Voilà, il s'est rien passé. Tout ça devant une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Mais hier soir, c'était également la première fois. Vous avez regardé Michel Boujna?
Non, c'est qui est-ce qui a eu l'Oscar? C'est
le meilleur film, c'est Une bataille après l'autre.
Ouais, d'accord. Qui est un film incroyable.
Qui a pris 4 Oscars en tout. Mais il y a eu une catégorie qui était pour la première fois récompensée hier aux Oscars.
Meilleur casting.
Exactement, bien vu.
Premier de la classe.
Ouais. Non, mais.
Mais il était temps.
Il n'y a jamais eu d'Oscar du casting.
Ouais, c'est fou.
Ouais, ouais. Absolument. Était nommée la directrice de casting. C'est encore une bataille après l'autre. Hein. Donc, ils ont tout raflé. C'est Cassandra Kouloukoundis qui a fait le casting d'une bataille après l'autre, qui a été oscarisée meilleure directrice de casting.
Mais qui a eu l'Oscar du meilleur acteur, par exemple?
Michael B. Jordan.
D'accord.
Et le meilleur film, donc Une bataille après l'autre.
Ouais.
Voilà. Quel serait votre casting de rêve si vous aviez un casting à faire? Et vous allez avoir un casting à faire, d'ailleurs.
Oui. De rêve.
Ouais, de rêve. En prenant des gens disparus, présents, tout ce que vous voulez.
Ah. Rému.
Vous ferez un film avec Rému, ok.
Rému. Rému sans fils. Je ne sais pas comment je pourrais les mélanger, mais enfin, Rému, De Niro.
Une bonne partie de cartes, moi je dis une partie de poker.
Sophia Loren, Bette Davis. Je m'attendais
pas tellement pas à ça. Non, c'est un joli casting en tout cas. Vous savez qu'avec l'IA, vous allez pouvoir le faire le film avec ces personnages.
C'est fou, hein.
Ça vous inquiète?
Ce qui m'inquiète, oui. Enfin, ça par exemple, ça serait assez joli. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'éloignement du réel, quoi. C'est pour ça que notre métier à nous, il est intouchable. On remplacera jamais ce qui se passe charnellement entre un acteur ou une actrice et le public.
Enfin, le milieu est quand même hyper touché, parce que par exemple, ceux qui doublent, il y a beaucoup de comédiens qui, quand ils ne tournent pas, ils doublent certains acteurs, et là, ça va être mort.
Ça va être mort si les artistes internationaux refusent que leur voix soit utilisée dans différentes langues. Ils vont protéger tous les comédiens de doublage du monde entier. Ouais. Si un De Niro dit, par contrat, j'interdis que ma voix soit utilisée en parlant le mandarin, le russe, l'allemand, le français, l'espagnol et autres, ça sera fait. Si par contre les acteurs, les actrices, ce qui a été le cas de Scarlett Johansson d'ailleurs, qui avait refusé aussi que sa voix soit utilisée par l'IA, mais si les acteurs disent, ou si les compagnies disent, on vous donne 10 millions de dollars supplémentaires, vous acceptez que votre voix passe par l'IA et qu'ils disent OK, là c'est mort. C'est le problème.
Et c'est
ça qui est fort. Ça ne dépend que.
Et de l'héritage en l'occurrence, parce que je sais que la fille de l'acteur qui doublait Sylvester Stallone dans tous les films français a accepté que sa voix soit refaite à l'IA pour que ce soit lui qui continue.
Non, c'est faux par contre, c'est une fausse info.
Ah bon?
Non, je plaisante. Ah bon? Pour déstabiliser.
Oh le clash!
Je crois
que c'est pas beaucoup là. Tu l'as tétanisé le pauvre. Un, deux, trois, soleil. Ah, il bouge plus.
Moi je connais un des garçons qui travaille dans la boîte qui a créé tout ça et qui a fait Stanford, machin, tout ça. Je lui disais il y a un peu plus d'un an, je lui disais, mais. Puis il était de passage en France. Et l'imperfection humaine.
Mmh. Ouais.
Vous en faites quoi?
La fragilité. Non,
oui.
Ouais.
Il m'a dit, mais vous savez pas encore, mais nous, on l'a déjà intégré. Mmh. Vous savez que les créateurs de ce genre de trucs, ils ont arrêté leur boîte. Parce qu'ils ont eu peur. Et c'est Bill Gates qui a racheté
Enfin, sauf qu'il y en a énormément d'IA, et y compris des Françaises d'ailleurs.
Oui, oui. Non, mais les vrais.
Les Français aussi, sont des vrais.
Arrêtez. Bien sûr. Et il m'a dit de toutes les façons, maintenant, c'est plus le problème. Les Chinois, il y en a beaucoup d'abord. Les Chinois ont la même boîte, enfin, ils sont très très forts. Il dit, si nous on arrête, on ne peut plus arrêter, il m'a dit. Alors, c'est une machine infernale.
Alors, le danger, c'est quand la réalité va être transformée. Mais ce qui est assez, il y a une IA, je pense que vous avez dû la voir, qui imagine toutes les grandes stars de la musique noire américaine à une remise de prix. Et la remise de prix va à Michael Jackson, qui se lève pour monter sur scène et prendre le prix. À ce moment-là, Prince se lève et quitte la salle.
C'est fou.
Et Michael Jackson monte sur scène, prend son prix et dit au micro... il n'y a qu'un roi, et donc le prince quitte la salle. Enfin voilà, il fait une vanne autour du King of Pop et de Prince.
Mais ça
devient un sketch, puisque malheureusement ils sont plus de ce monde et on sait que tout.
Oui, mais on saura plus dans quelques temps si ça continue comme ça. Ce qui est vrai, ce qui est faux, de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend. Mais cela dit, il y a maintenant des IA qui sont en train de se monter, dont le travail, c'est de faire la différence entre le vrai et le faux. Parce que c'est en train de se développer énormément pour qu'on puisse se rendre compte et découvrir le faux.
Et là où ça va être dangereux, c'est ceux qui seront clients d'une IA, même qui savent très bien que c'est totalement faux avec un Prince et un Michael Jackson, mais qui seront quand même consommateurs parce qu'ils vont trouver l'idée géniale.
Ce qui a été le cas d'un titre numéro 1 des charts aux États-Unis. Tout le monde a su que c'était une IA. Ils se sont dit, bon, je m'en fous, la musique est bonne. J'aime bien. Donc ça va. Ouais. Très bien. C'est pas une IA, heureusement, elle a sa fragilité.
C'est vrai.
Elle est là.
Je suis parfaite.
Le retour d'Emma Beaujean.
Bonjour.
Quel hommage aujourd'hui.
Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage au théâtre.
Ah cruel, tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. C'est une longue. Eh bien connais ton Phèdre et toute sa fureur.
Pardon, je suis un peu en fuego parce que j'ai appris que j'allais faire Avignon cet été tous les matins du théâtre du Chêne Noir. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais du théâtre. Alors moi, j'ai commencé le théâtre parce que je suis venue passer une audition au Conservatoire de la Réunion pour le cursus de guitare. Voilà, je suis arrivée en face du jury, je me suis installée. Et au moment de prendre la guitare en main, je me suis rappelé qu'en fait, je n'avais jamais joué de guitare de ma vie. Et les jurés, ils m'ont dit que j'étais nulle. Et ça m'a vraiment énervée parce qu'il n'y a rien de pire que des hommes blancs de 45 ans qui ont raison. Et donc, je me suis énervée et ils m'ont dit « Eh oh, la comédienne, là, l'audition pour le théâtre, c'est en face. » Et ben, j'y suis allée. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu un homme très beau rentrer dans ce cours. Il s'appelait Bernard, il avait 50 piges. Mais ça va, c'est bon, c'est le théâtre, quoi. C'est le fantasme, on peut rêver. Et comme l'a dit Molière un jour, en vrai, là, ça va. Il avait dit ça dans Don Juan 2, la revanche de Sganarelle. Bref, c'est pas le sujet. Et puis donc, j'ai été prise, mais le problème, c'est qu'il fallait avoir 16 ans et que j'en avais que 14. Donc, ma mère m'a fait une fausse carte d'identité. Voilà. Et oui, elle a un passé de faussaire. Ah, en même temps, bon, la supercherie n'était pas incroyable non plus. Je veux dire, on a menti sur 2 ans. Hein, c'est pas comme si on avait une double vie cachée, comme mon père à Noël quand on l'a cramé qu'il baisait une meuf de 25 ans de moins. Quoi, pardon, on me dit à l'oreillette que je dois pas dire ça à l'antenne. Qui me dit ça? Ma psy, ma mère, la directrice d'antenne. Bon, bref, moi j'ai trop kiffé le théâtre, pas le mensonge. Et même si on dit souvent qu'être acteur c'est mentir un peu, oula, ça fait début de discours des Césars un peu. Hein. On dit souvent qu'être acteur c'est mentir un peu. Hein. Vous savez, être acteur c'est comme être boulanger. Les acteurs, on fait un peu pareil que les boulangers. Sauf qu'au lieu de pétrir de la farine, on pétrit des émotions. Et au lieu de se lever tôt, on se couche tard. Bonne soirée, vive le cinéma. Merci beaucoup. Dac, ma puce. Et c'est marrant parce que moi, à chaque fois que j'ai déménagé et je faisais un nouveau conservatoire, et à chaque fois, je tombais amoureuse de quelqu'un dans mon cours. Voilà, c'était ma première motivation, pour être très sincère. Alors d'abord, il y a eu Jean-Simon, 16 ans. Et il avait l'air très beau juste parce qu'il n'avait pas d'appareil dentaire. J'ai des standards très bas, profitez-en. Et il était beau aussi parce qu'il ne trompait pas ma mère. Il disait qu'il allait au ping-pong un mardi soir. Pardon, j'arrête. Et donc, après, j'ai été aussi au conservatoire du 6e arrondissement à Paris avec une super professeure génialissime qui s'appelle Sylvie, que j'adore, que j'embrasse. Sylvie, qui doit sûrement être la dernière Sylvie que Daniel Morin n'ait pas encore bu. C'était cool parce que vraiment, ce qui est génial quand on fait du théâtre en conservatoire, c'est qu'au bout d'un moment, tu fais ton propre projet de fin d'études. Et alors là, mais là, tu te prends pour Pomera. Et comme tu es en cours de théâtre, tu as sûrement aussi des problèmes mais avec un père qui ne t'aime pas assez ou un ami de la famille qui t'aime trop, bref. Et moi, du coup, je me souviens, je me prenais pour une génie. Mon projet de fin d'études, c'était genre, je crois que j'ai avalé une horloge, tic tac, je l'entends là. Ce n'est pas dans la pièce, c'est dans moi. Et depuis, j'ai l'impression que tout est en retard, même mes souvenirs. Hier, par exemple, ou peut-être demain, je ne sais plus, les deux, j'ai croisé une femme qui pleurait dans un distributeur automatique. Oui, dedans, entre les chips au barbecue et les parts chocolatées. Elle disait, choisissez-moi. Mais c'est quoi des chips au barbecue? Elles ont été cuites au barbecue. Y a-t-il de véritables morceaux de barbecue dedans? La vie n'a aucun sens. Tic-tac, mon père aime le ping-pong. Tic-tac. Moi, j'ai eu beau déménager plein de fois. À chaque fois, le seul endroit qui ressemblait à la maison, c'était les cours de théâtre. Je crois que le théâtre, c'est vraiment un refuge. Et surtout, ça c'est extraordinaire, c'est le seul métier d'adulte où on dit qu'on va jouer. Donc là, il est midi et je suis en train de jouer. C'est assez extraordinaire. Je vais rendre hommage à ça. Merci de m'avoir écouté.
Merci. Emma Beaujean, au théâtre du Chat-Noir à Avignon. Donc.
Oui, mais avant, à Paris, allez la voir. C'est tous les mardis à 19h au théâtre Le Pic.
Et à partir du 1er août, Michel Boujna, vous redevenez président de ce festival de Ramatuelle. Il y aura Manu Payet pour Emmanuel II, Le Bourgeois Gentilhomme avec Jean-Paul Rouve, Toute la famille que j'aime, tiens par hasard, avec Michel Boujna. Il y aura, je me souviendrai de presque tout, Nicolas Briançon, Pierre Arditi, Là je compte parle enfin, la pièce de Laurent Ruquier, Thierry Frémont et Nicolas Vaude dans Une heure à t'attendre, Je m'appelle Georges avec ma douce et tendre épouse Mélanie Page et Grégory Baquet, Marine Duzéhu entre autres, Benabar en concert également, 12 hommes en colère, Camille Chamou, Jeanne Chéral, tout ça, ça sera au mois d'août à Ramatuelle, mais pour l'instant au Théâtre des Variétés, Toute la famille que j'aime, Michel Boujna, Guillaume Bouched, Anne-Sophie Germanaz et Raphaëline Goupillot. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, plein. Alors déjà, pour Bruno Pecky, on a découvert ce matin que ce petit garçon avait du mal avec sa carrière. Il n'a qu'une chevalière comme héritage et qu'il n'a jamais encore eu d'expérience physique. Alors, bonne nouvelle, j'ai passé des coups de fil à la pause, parce que tu sais, j'ai des connexions. Et pour tes trois petits soucis, quelqu'un s'est proposé pour t'aider. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça de la fin. Désolé pour nos fidèles auditeurs qui, comme Nagui, ont été étonnés, voire déstabilisés par la qualité de la chanson d'Old Love de ce matin. Alors ouais, je vous rassure, j'ai eu accès à celle de demain, ce sera pour Jean Dujardin et on revient vraiment aux fondamentaux, c'est-à-dire un naufrage. Désolé pour les auteurs, les producteurs de Toute la famille que j'aime qui ont remarqué qu'entre les anecdotes à rallonge et les parenthèses sans fin, on ne parle pas assez de la pièce. Alors j'ai bien essayé, mais face à Nagui sous amphétamine et Michel Boujna défoncé à l'herbe, c'était hyper compliqué.
Merci Daniel Morin, merci Michel Boujna, toute la famille que j'aime.
C'est moi qui vous remercie.
Au Théâtre des Variétés et Ramatuelle, donc aussi avec toute la famille que j'aime.
Et aussi un beau casting.
À partir du 1er août demain, beau casting.
Et à la pêche bientôt.
Nastia.
au mois de mai, juin, Nastia, tous les jours.
Golubeva.
Pour essayer.
Et Jean Dujardin seront nos invités. Bonne journée.
Continue. Allez, c'est bon,
à demain. Ciao.